Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui vous propose de réfléchir ce soir sur la justice dans l'Égypte ancienne et son actualité avec Bénédicte Loyer et Francis Janot. Alors, Esprit de justice vous propose de faire ce soir ce voyage dans le temps, dans l'Égypte ancienne, de très, très haute antiquité, et qui semble, par bien des égards, être le berceau de la justice en Occident. Non seulement la justice occupait une grande place dans la vie sociale, nombre de symboles encore aujourd'hui en vigueur, ce qu'on doit peut-être même l'idée de jugement des morts et de la fameuse balance. Alors je vous propose de faire des allers-retours entre la plus haute antiquité et notre époque, et vous allez constater que ça n'ira pas à sens unique. J'ai donc le plaisir de recevoir deux archéologues, Bénédicte Loyer. Bénédicte Loyer qui est docteur en égyptologie, qui enseigne à l'école du Louvre, qui est professeur au conservatoire de musique aussi en histoire de l'art et qui fait un post-doctorat au centre Alexandre Coiré au CNRS et qui continue de fouiller en Égypte et au Levant. Et pour discuter avec elle, Francis Janot, qui est archéologue également, mais qui est également expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Nancy, précisément parce qu'il fait des liens entre la criminalistique et l'archéologie. D'ailleurs, c'est le thème qu'il a donné à un livre qui a été publié par les éditions universitaires de Lorraine, un livre intitulé « Criminalistique, indices et traces en archéologie, méthodologie d'enquête dans l'Égypte ancienne ». Bonsoir à tous les deux. Donc, Bénédicte Loyer, est-ce que vous pourriez nous présenter la justice dans l'ancienne Égypte ?
Bonsoir Antoine Garapon. Vaste sujet,
oui, programme. Vaste sujet qui dure très longtemps. Est-ce que vous pouvez situer pour nos auditeurs la durée de la civilisation égyptienne ?
Alors, si vraiment on doit remonter à la préhistoire, on est en quelque sorte, les premières traces de population vers 10 000 et quelques avant Jésus-Christ. Et on considère que ça s'arrête à partir du moment où l'Égypte tombe aux mains des Romains. Donc en 31 avant Jésus-Christ, lorsque Cléopâtre VII perd face à Octave Auguste. Donc on est sur cette chronologie qui est extrêmement longue, qui est divisée en différents empires, sauf que nos dates bougent très régulièrement au fur et à mesure de nos découvertes. Donc on dit parfois tel empire entre telle et telle date, mais quelques années plus tard, ça bouge. Mais on est sur un laps de temps extrêmement long. Si on doit considérer avec l'écriture, on est entre 3300, ça démarre à 3300 à peu près avant Jésus-Christ.
Est-ce que l'idée de justice apparaît très tôt et est-ce qu'elle est contemporaine avec la naissance de la culture égyptienne ?
Eh bien, mine de rien, quand on regarde les documents, c'est ce qui semble apparaître. Pour le plus ancien document historique que nous ayons, qui s'appelle la palette de Narmer. C'est une palette en gros vac, c'est une sorte de schiste. Elle est conservée au musée du Caire. Et vous avez la représentation du roi Narmer, qui est à la fois représenté sur une face en tant que défenseur de son pays et de l'autre en tant qu'administrateur. Et vous avez déjà là, dans la représentation, dans l'image, tout ce qui est l'idée même du droit, en fait, de l'organisation, de la tête du pays. Pour nous, vraiment, c'est un document qui est absolument fondateur. Et les Égyptiens l'avaient bien compris, puisqu'il a été conservé dans les sous-sols d'un temple, jusqu'à ce qu'on le retrouve au XIXe siècle. Donc les Égyptiens avaient eux-mêmes conscience que c'était un document historique extrêmement important.
Et ils l'ont préservé, en quelque sorte.
Et ils l'ont préservé. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez remarquable, que des anciens aient, comme ça, eu cette espèce d'idée de préservation d'une sorte de patrimoine. De la même façon que nous préservons dans nos archives des documents qui nous semblent essentiels pour l'histoire de notre pays.
Et il y avait dans les temples un endroit réservé à la justice ? Vous avez pu identifier un endroit
Alors, il y a généralement des endroits à la porte des temples, en fait, manifestement, où l'on rendait la justice. Donc, il y avait sans doute des sortes de petits kiosques On pense qu'il y en avait dans plusieurs temples. Il y en a un, il me semble, au temple de Medamoud, où il y avait une sorte de petite estrade, sans doute, et où le juge était présent et pouvait rendre la justice et s'occuper des affaires de toute personne qui venait saisir le juge pour diverses raisons. Et d'ailleurs, des raisons qui très souvent ressemblent beaucoup à ce qui encombre.
Oui, c'est ça. Alors, on y reviendra, mais Francis Jeannot, un lieu de justice séparé, à Saqqara, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, vous avez identifié une salle de justice.
Bonsoir Antoine Garapon. Alors, une salle de justice dans une nécropole, non, je crois que ça va être assez difficile à mettre en évidence, parce que dans la nécropole de Saqqara, on ne retrouve que les pyramides, que des complexes funéraires, des chaussées, et puis des tombes d'époque tardive. Donc, il ne peut rien trouver qui ait un rapport quelconque avec la justice.
Si ce n'est des symboles.
Si, voilà, c'est ça, voilà. On peut retrouver... on sait sans doute que le haut fonctionnaire du Mastaba d'Aretetep, donc la mission du musée du Louvre, je recherchais son Mastaba, sa tombe, il y a quelques années. Lui, ce fonctionnaire, il devait être sans doute un juge, un haut fonctionnaire, et il avait dans sa profession la fonction de juge. À part ça, je ne vois pas, sur un terrain, on ne retrouve rien de ce type.
Mais justement, intéressons-nous, Bénédicte Loyer, intéressons-nous aux représentations de la justice, à la fois mythique, parce que vous travaillez sur ces deux, sur ces deux plans, à la fois mythique avec la déesse
Maat.
Alors, est-ce que vous pouvez présenter à nos auditeurs la déesse Maat?
Alors, la déesse Maat fait partie sans doute des figures les plus complexes et les plus absolues dans la mythologie égyptienne. Elle est représentée sous la forme d'une jeune femme, très gracieuse, comme d'habitude.
On va retrouver ça aujourd'hui.
On le retrouve aujourd'hui, exactement, et avec une plume d'autruche sur la tête. Et Maat, contrairement à d'autres déesses comme Isis ou Hathor, par exemple, elle s'exprime très peu, voire pas du tout. Elle n'a pas besoin, en quelque sorte, de s'exprimer. Elle est présente dans toutes les scènes qui ont lieu avec la justice, principalement, par exemple, le jugement des morts. Elle est aussi très présente dans les temples, puisqu'on a très souvent cette représentation du roi en train d'offrir une petite effigie de Maat. Et c'est sans doute l'offrande la plus puissante que le roi peut faire, puisque Maat englobe des concepts qui vaut pour la justice, la vérité, l'harmonie. Comme dit très bien Bernadette Menu, la juste organisation des choses et la juste rétribution des choses. Voilà, Maat, en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'une simple image de la justice. C'est quelque chose qui englobe, en fait, l'Égypte dans son ensemble et qui, finalement, est l'essence même de l'Égypte. L'Égyptien est très chauvin, oui. Et il considère que son univers bien organisé, avec la crue, avec le roi à sa tête, c'est une expression absolue de la Maat.
Donc, qui incarne l'idée d'ordre, on pourrait dire, d'ordre
voilà.
Juste.
L'ordre juste et le fait que chaque personne peut vivre et faire Maat. Il y a vraiment l'idée de faire Maat, puisque lorsque l'on passe de l'autre côté dans le royaume des morts, ses actions vont être pesées, et donc si on a bien fait Maat, on a accès en quelque sorte au paradis.
Alors comment ça se passe? Comment on représente le jugement des morts? D'abord, on retrouve cette représentation très fréquemment dans les fouilles ou dans les tombes.
Alors en tout cas, quand on fouille des nécropoles, alors particulièrement des zones où vous avez beaucoup de tombes qui ont en tout cas ont leur peinture préservée, il y a toujours un chapitre qui est très souvent présent. Il est devenu absolument emblématique. C'est le chapitre 125 de ce qu'on appelle le livre des morts. Alors, on l'appelle la psychostasie, c'est-à-dire la pesée de l'âme. Et je suis sûre que tous vos auditeurs l'ont déjà vu au moins une fois. Vous avez généralement, ça commence avec un personnage qui se retrouve en posture d'adoration devant une grande salle. Les portes sont ouvertes. Il y a quelques marches. On monte toujours les marches du palais.
Tout un symbolisme qu'on continue de retrouver aujourd'hui.
Exactement, hein. Et c'est ça qui fait cette proximité pratiquement instinctive que nous avons avec l'Égypte ancienne, en tout cas sur certains points. Et dans cette salle, qu'on appelle la salle des deux Maat, se trouvent 42 juges. qui ont des noms absolument terribles, qui font d'ailleurs extrêmement peur. Vous avez celui qui a son visage en arrière, la valeur d'ombre, c'est voilà, quelque chose qui vit, voilà, des entités extrêmement dangereuses.
On pourrait dire qu'il y a une symbolique orale, la valeur, la bouche, il y a des animaux terribles aussi.
Ah, il y a des animaux épouvantables, et ceux-là, en fait, sont vraiment attachés à un tabou. On pourrait dire, on peut utiliser ce terme-là. Et dans cette fameuse salle, le défunt, qu'il soit homme ou femme, va faire ce qu'on appelle la déclaration d'innocence. Alors on utilise aussi parfois l'idée de confession négative, mais déclaration d'innocence, c'est beaucoup plus adapté. Et en fait, il va dire...
Ce qu'il n'a pas fait.
Ce qu'il n'a pas fait à chaque fois. Et ça, c'est très important, puisque toute la parole est vraiment performative. Et donc, vous allez avoir des choses comme « je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas triché lorsque j'ai fait des offrandes, je n'ai pas été pédéraste ». On a vraiment des choses, une liste assez impressionnante.
Et une liste de mauvaises actions.
De mauvaises actions, et qui sont considérées pour les Égyptiens comme étant des choses extrêmement terribles. Hein. Ça va jusqu'au meurtre. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. « Oh, par exemple, la valeur d'ombre, je n'ai pas fait telle ou telle chose ». Et suite à cette déclaration d'innocence, on va procéder à la pesée du cœur du personnage, qui est représentée sous la forme d'une petite sorte de petite cruche, un petit pot, et de l'autre côté du plateau de la balance se retrouve la plume de Maat, ou alors une effigie de Maat, assise, avec sa petite plume sur la tête. Et le but, c'est d'équilibrer les plateaux, en fait. Généralement, voilà, on ne peut pas être plus léger que la justice, c'est impossible. Mais par contre, si littéralement son cœur est lourd de fautes, c'est l'expression consacrée, et que le plateau est déséquilibré, cela prouve que la personne n'a pas fait Maat et n'a pas vécu en conformité avec Maat. Et ça. Là, il y a une bête immonde qui va s'occuper du cas de notre défunt malheureux, qu'on appelle Amamet Ouret, ça veut dire la grande dévoreuse, et qui a une tête de crocodile, un avant-train de lion et un arrière-train d'hippopotame, c'est-à-dire les trois animaux les plus dangereux de l'Égypte ancienne, et qui attaquent dans l'eau, sur la rive et sur la terre. Donc vous ne pouvez pas lui échapper.
Francis Janot, vous avez rencontré, vous avez vécu dans cette ambiance-là des 42 juges et du jugement des morts.
Cette ambiance-là, non, mais en revanche, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus terre-à-terre qui peut expliciter un peu ce qui se passait. Finalement, dans les papyrus judiciaires de la fin du Nouvel Empire, par exemple sous l'époque des pillages qu'il y a eu sous l'époque de Ramsès IX et de Ramsès XII, par exemple, on connaît très bien qu'il y avait une rivalité entre le célèbre gouverneur de la rive Est, qui s'appelait Paser, et le gouverneur de la rive Ouest, qui s'appelait Paoura, et qui était également chef de la police de la nécropole. Et il y a eu tout un imbroglio judiciaire, avec commission d'enquête, arrestation, interrogatoire, rédaction de procès-verbaux, et puis après, réunion de la grande cour, c'est-à-dire du vizir et des magistrats. Donc il y a eu des peines qui ont été prononcées, vous voyez. Et en fait, on comprend bien que dans ces époques un peu tourmentées de la fin du Nouvel Empire, eh bien, en fait, il y avait des bandes qui allaient piller les tombes royales. Alors, c'était des bandes, un gang, un véritable gang. Hein. Si on regarde, il y a un papyrus qui est très connu aussi, d'Der el-Médineh, où vous avez un Paneb, il s'appelle Paneb. Il était ouvrier, un simple ouvrier de Der el-Médineh. Et puis il a corrompu le vizir, qui lui a donné le poste de chef d'équipe à la place d'un autre candidat. Alors cet autre candidat, pour se venger de lui, l'a dénoncé pour des exactions qu'il a commises pendant plus de 25 ans. Parce que comme il était chef de la région, chef de l'équipe, si vous voulez, au fur et à mesure, son impunité étant totale, au fur et à mesure des 25 ans, il augmentait les vols,
richesse.
La qualité des vols et la richesse. Et en fait, il a été vraiment pris le jour où il est rentré dans la tombe de Seti Merumta. Et ce jour-là, ben, il est passé en tribunal. En revanche, on ne sait pas, le papyrus ne dit pas comment a fini l'histoire.
Mais ça veut dire que vous, Francis Janot, vous disposez de documents judiciaires extrêmement précis. Là, vous nous racontez
Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, la spécialiste de tous ces documents, c'est bien sûr notre maître à toutes les deux, Bénédicte et moi-même, c'est Bernadette Menu, oui. Bien évidemment. Oui. C'est la spécialiste de l'Égypte judiciaire.
C'est ça. Et Bénédicte Loyer, ce travail sur la dimension judiciaire administrative de l'Égypte, qui avait été peu étudié finalement avant les travaux de Bernadette Menu.
Alors, en fait, il y a eu sporadiquement des petites études. D'ailleurs, par exemple, il y avait au début du siècle précédent des cours d'histoire du droit égyptien à l'école du Louvre. C'est Monsieur Révillou qui se chargeait de ces cours-là, et donc apparemment, l'école du Louvre a été pionnière en faisant des cours de droit égyptien ancien. Mais voilà, c'était vraiment le tout début.
Parce qu'il y avait, alors c'est ça qui est très, très intéressant si on regarde ça depuis des yeux d'aujourd'hui, il y avait un système de justice dont on sait beaucoup de choses.
Eh bien, mine de rien, avec effectivement les tombes que nous avons, ainsi que tous les sortes de curriculum vitae sur les façades de certains tombeaux, il y en a partout à Saqqara. Francis en a dû voir des centaines et des centaines. Il y a ces personnages qui se présentent comme étant magistrats, responsables. Voilà, on a beaucoup beaucoup de choses. Et nous avons aussi des autobiographies avec parfois des épisodes qui sont relatés. Je pense notamment à un monsieur qui s'appelait Ouni, dont sa tombe a été découverte à Abydos, on est dans le sud du pays. Et il parle en fait, alors on est à la 6e dynastie, on est à la fin de l'époque des grandes pyramides, aux alentours de, allez, grosso modo 2400-2300 avant Jésus-Christ. Et ce monsieur parle d'une affaire, il a été chargé par sa majesté de apparemment juger une grande épouse royale qui aurait fomenté un complot contre le roi. Et donc, on a cette idée quand même de jugement en huis clos, parce que personne ne doit l'entendre et presque personne
parce
ne doit le savoir.
Parce qu'il va raconter des affaires de palais. Quoi.
Bah là, c'est des affaires de palais. En plus, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. On est avec une épouse quand même d'un certain rang. Et il parle de cela sur sa tombe. D'ailleurs, c'était bien affiché sur la façade. Mais malheureusement, on n'a même pas le nom de la reine.
C'est ça. Mais il y a donc énormément de délits et de crimes qui sont commis. Alors là, on a parlé de crimes de rivalité ou d'administrateurs. Il y avait aussi, et c'est un véritable problème très très tôt, Francis Janot, des pilleurs de tombes.
Ah ben le pilleur de tombe. Ben, piller une tombe peut rapporter beaucoup d'argent. Hein. Par exemple, je connais un papyrus qui relate un gang qui a pillé justement la pyramide de la reine Tasset-Nefrou. Bien, les voleurs qui ont été arrêtés, quand ils ont été arrêtés, ils étaient en possession de 22 kilos d'or, d'argent et d'électrum.
Et ça représente
et donc,
combien
ça rapporte, c'est ce n'est pas des petits vols. Hein. Ça rapporte, c'est vraiment, ça rapporte. Mais la sanction est à la hauteur de du vol également. Hein.
Oui. C'est-à-dire si vous... Oui, c'est-à-dire la peine de mort.
Bah, c'est-à-dire, oui, là encore, c'est Bernadette Menu qui a classifié ces sanctions. Vous commencez par doucement, je dirais, entre 200 et 300 coups de bâton. Après, vous pouvez être mutilé, amputé du nez et puis d'une oreille, des deux oreilles, ou amputé du nez et des deux oreilles. Et puis, effectivement, vous risquez la peine de mort, mais quand même pour des affaires royales, par exemple, je pense à l'affaire du palais, des choses comme ça, mais l'empalement, voilà. C'est le papyrus à bottes qui le démontre, mais bon...
C'est plutôt rare.
Oui.
Par contre,
jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé un corps, vous voyez, qui ait subi le rite de l'empalement.
Par contre, Bénédicte Loyer, il y a une peine qui revient souvent dans les représentations et qui est extrêmement fréquente, c'est la bastonnade.
La bastonnade. Dès l'Ancien Empire, donc dès 2700 et quelques avant Jésus-Christ, on a ces représentations de personnages qui sont attachés autour d'un piquet et qui sont battus allègrement par différents responsables. Alors en plus, avec parfois des petites phrases au-dessus d'eux, très ironiques, qui disent par exemple, « Tiens, c'est pour toi, ce sont des beaux cadeaux », par exemple. Alors il y a différentes façons. Il y a soit on attache la personne autour d'un poteau, on l'assoit, hein, et on fait que ses bras et ses jambes en serrent le poteau, ou alors on peut l'allonger par terre.
Et ça, c'est très fréquent.
Et c'est fréquent. Et je sais d'ailleurs qu'il y a encore quelques années en Égypte, dans certains villages, ce système-là fonctionnait encore. Et c'est apparemment extrêmement efficace. Alors, il y a une façon aussi de procéder. Et on a ça, par exemple, au XIXe siècle, avec des célèbres pilleurs contemporains qui pillaient plusieurs caches au trésor pour pouvoir essayer de leur faire cracher le morceau sur l'endroit spécifique de la tombe. On leur a battu la plante des pieds.
Mais ce sont des châtiments corporels, mais qui ne conduisent pas à la mort.
Alors, quand même, parce que 200 à 300 coups de bâton... C'est quand même...
Oui.
Voilà.
Oui.
Francis Jeannot
sera tout à fait d'accord avec moi, je pense.
C'est-à-dire que si vous regardez Pirates des Caraïbes, quand vous voyez quand ils sont fouettés, vous voyez très bien que quand même, ça laisse quand même certaines marques. Alors 200 à 300 coups de bâton dans le dos, ça doit quand même user son homme, dirons-nous.
Mais vous confirmez, Francis Jeannot, que la bastonnade a continué d'être pratiquée comme s'il y avait une mémoire longue de la punition en Égypte.
Bien sûr, oui, elle se continue, oui, bien sûr, elle se perpétue, c'est bien évident. Mais là encore, ce sont les bas-reliefs qui montrent les scènes. Il n'y a aucune réalité d'archéologie funéraire dans tout ça, bien évidemment.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue cette réflexion, cette découverte, je dois dire, de la justice en Égypte, avec en compagnie de Bénédicte Loyer et de Francis Jeannot. Francis Jeannot qui a décidé de nous faire écouter cette chanson de Rammstein, America. Un choix singulier, un choix provocateur, Francis Jeannot.
Non, j'adore le hard rock et j'adore Rammstein. Pas de problème. Et puis, sur une belle émission de France Culture, il faut savoir un peu casser les codes, je crois.
Et ben, vous avez bien raison. En tout cas, vous m'avez fait découvrir tout le monde vit en Amérique. Mais retournons en Égypte avec vous, Bénédicte Loyer, sur le décret d'Horn Ebb. Présentez-nous un peu cette réforme importante.
Alors, Horem Heb, c'est en fait le dernier roi de la 18e dynastie. Il clôture une dynastie absolument brillante. Il a vécu au même temps que Toutankhamon. C'est un grand général. Et après la mort de Toutankhamon et la mort du précepteur de Toutankhamon qui s'appelait Ayi, qui était déjà assez âgé, Horem Heb, qui lui aussi avait déjà un certain âge, est monté sur le trône. Et il a entrepris toute une série de réformes très importantes pour essayer d'effacer ce laps de temps qui avait été épouvantable pour l'Égypte, en tout cas pour eux, qui est cette période d'Akhenaton jusqu'à Toutankhamon, en fait. Et donc, il y a plusieurs choses qui apparaissent. On a plusieurs textes funéraires, comme le Livre des Portes, qui fait son apparition. Et surtout, voilà, toute une série de mesures, et notamment ce fameux décret qui se trouve à Carnac, et qui malheureusement est très très abîmé, mais qui a été copié quand même assez tôt. Il y a des petits bouts qui ont été retrouvés au fur et à mesure. C'est caractéristique avec les documents que nous avons en Égypte ancienne. Voilà, ils sont parfois en fragments.
C'est ça. Et vous avez réussi à retrouver, quoi, vous, les égyptologues, les archéologues, ont réussi à reconstituer un décret royal sur la nomination des juges.
Exactement.
Et alors ça qui est absolument formidable, je vous propose de le lire pour nos auditeurs, puis vous commenterez. Ce décret de Horemheb dit... J'ai choisi des hommes discrets, ayant bon caractère, sachant lire les pensées, obéissant aux consignes du domaine royal et aux lois conservées dans les archives. Je les ai répartis dans les grandes villes de Haute et Basse-Égypte, chacun vivant tranquille grâce à eux sans exception. Je leur ai donné des instructions verbales et des lois comme journal. Je les ai instruits relativement à une ligne de conduite et je les ai guidés vers Maat. Ainsi, tout maire, tout prophète dont on entendrait dire qu'il siège pour rendre la justice dans le tribunal constitué pour rendre la justice et qu'il innocente un coupable, se sera retenu contre lui comme un grand crime passible de peine de mort. C'est extraordinaire.
Il y a tout. On pourrait même transposer ça actuellement avec nos juges.
Hein, c'est une description
ils ont tout,
de l'éthique
le code,
des juges, bien sûr.
L'idée d'avoir quelqu'un qui ait une certaine probité, l'idée que si un juge est corrompu, il va en payer le prix. Alors là, ça va jusqu'à la peine de mort, mais on imagine quand même la trahison de l'institution est quand même une chose absolument terrible. Et puis, il y a vraiment l'idée d'un choix, de voir voilà, quelqu'un qui sait trancher les choses, qui sait bien observer.
C'est ça. C'est finalement, il y a une description à la fois morale et juridique.
Morale, hein, juridique, les documents aussi, la référence avec les textes de loi. Là aussi, on est quand même avec quelque chose d'assez impressionnant et qui peut faire éventuellement aussi penser aux grands textes qu'on peut avoir au Proche-Orient, par exemple le Code d'Hammurabi,
Il y avait des communications entre la Mésopotamie et l'Égypte.
Très tôt, très très tôt, dès le départ. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de circulation. Le monde bouge, en fait. Et l'Égypte est un carrefour absolument extraordinaire. Vous avez des gens qui viennent du Proche-Orient. On a d'ailleurs des œuvres qui ont été trouvées en Égypte avec une iconographie qui est celle qu'on a dans la cité d'Uruk. Donc, vraiment extrêmement loin. Mais on a déjà les bateaux qui remontent, on a déjà beaucoup de choses au levant.
Alors, concernant l'idée de jugement, juger les morts, ça vient d'Égypte, mais finalement, on peut faire un pont, Bénédicte Loyer, avec le jugement dernier, c'est mythique.
Ah, bien sûr, de toute façon, on est dans une même ère culturelle. Même si, effectivement, il y a différentes expressions ou différentes écritures ou une différente iconographie, mine de rien, je trouve personnellement que c'est une erreur de séparer l'Égypte du Proche-Orient. On devrait quand même, au moins, avoir une vision sur les deux. C'est extrêmement important parce que c'est comme si dans 3500 ans, des archéologues essayent de comprendre la France, mais sans voir l'Allemagne à côté. Vous voyez, par rapport à l'Europe, on ferait des fautes absolument épouvantables. C'est, à mon sens, ce qui se passe un peu. Quand on évacue comme ça d'un coup le Proche-Orient, sans voir les nombreux liens, les liens diplomatiques, les liens commerciaux, on a des Égyptiens qui vont extrêmement loin. Hein, et là où je fouille au Levant, on est dans le nord d'Israël, le nombre d'objets égyptiens qu'on retrouve est absolument effarant.
Dans un site de quelle époque ?
Alors là, on est dans le dernier palais du Proche-Orient intact. Et la couche qui nous intéresse le plus date entre 2000 et 1000 avant Jésus-Christ. On est à l'âge du bronze.
C'est ça.
Mais ça remonte jusqu'au temps de Salomon et de David. On est jusqu'à l'âge du fer, au premier millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est le Levant, c'est le point de rencontre entre l'Égypte et le monde du Proche-Orient. Et là, c'est ça le gros souci pour nous, c'est que nos dates entre l'égyptologie et le Proche-Orient ne correspondent pas. On sait que deux rois ont vécu l'un en face de l'autre puisqu'ils correspondent, mais on a 200 ans d'écart dans nos chronologies. Et à 200 ans d'écart, Napoléon fait la guerre à Hitler.
C'est ça, oui.
Et là, pour le coup, parfois on en est là.
Alors, on a beaucoup parlé de la justice, du système administratif, de la communication d'ailleurs entre les zones, les aires culturelles. Mais il y a aussi les corps qu'on a retrouvés. Alors, c'est votre spécialité, vous, Francis Janot, les corps qui étaient embaumés.
Les corps qui sont embaumés, les corps... inclus dans le terrain, les corps dans les dunes de sable, les corps dans les tombes inviolées, Nous avons eu la chance d'en trouver, d'en découvrir une en 2004 dans la fouille du musée du Louvre à Saqqara. Oui, les tombes, les corps se présentent sous des formes multiples et variées.
Alors, expliquez-nous quelle est votre technique, Francis Janot, parce que c'est une technique qui semble opératoire aussi bien pour des faits qui remontent à 3000 ans que pour des faits très contemporains qui sont des scènes de crime.
Ben oui, il s'agit tout part de la mise en évidence d'un corps, quel qu'il soit. Alors, vous pouvez trouver un corps moderne ou un corps ancien, bien évidemment, mais vous pouvez également découvrir un squelette. Lors d'une scène donc moderne, donc ce sera dans une scène de crime, sinon dans l'Égypte ancienne, ce sera une scène d'archéologie funéraire.
Mais vous en avez trouvé, vous, des corps, par exemple, des corps laissés abandonnés.
Alors, des corps, oui. Plutôt, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de retrouver, vous arrivez dans une dune de sable. Vous ne savez pas, vous ne voyez rien, vous ne voyez qu'une dune de sable. Et puis là, vous commencez à éliminer le sable au fur et à mesure, et puis tout d'un coup, il apparaît un fragment d'os. Hein. Alors vous savez, dans le corps humain, il y a 200 ciseaux. Et alors, il faut déjà connaître ces 200 ciseaux, avoir leur anatomie en tête, et au bout de votre spatule pour bien les mettre en évidence. Parce que qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre au jour le cadavre ou le vestige squelettique dans une scène. Alors, scène de crime, bien évidemment, qu'elle soit, mais une scène de crime moderne, elle doit être extérieure, bien évidemment, hein, localisée ou non, c'est-à-dire que vous la retrouvez.
Oui, mais alors, restons ce qui se passe en Égypte. Vous êtes dans le sable, vous trouvez un squelette, et qu'est-ce qui peut vous dire ce squelette? Qu'est-ce que vous, archéologue, vous pouvez dire du crime qui s'est passé?
Ah, ben le crime, c'est la position, ce sont la position des ossements qui a été imposée par le ou les criminels qui ont perpétué cet acte. Par exemple, vous pensez sans doute à ce cas de mort suspecte qui a été découvert,
oui,
que j'ai mis en évidence dans une nécropole de Sédenga au Soudan. C'est donc un homme qui a une forte corpulence, qui fait à peu près 1m70 de haut, qui est mort, son âge au décès peut être estimé entre 45 et 50 ans. Et quand j'ai mis son corps en évidence, je n'ai pas retrouvé son bras gauche. Son bras gauche avait disparu. Alors je me dis, ben c'est vraiment très intéressant, son bras gauche n'est pas là. C'est vraiment un cas pathologique très intéressant. Et puis en fait, en mettant en évidence le corps, j'ai retrouvé et le bras et la main droite. Et la position de ces deux organes anatomiques montre qu'en fait, il a eu les deux bras liés dans le dos. Il y a eu donc eu une position contrainte, il y a eu une contrainte, alors sans doute par un lien, hein, on n'a jamais retrouvé le lien. En revanche, donc il y a donc bien cas de mort suspecte. En revanche, si vous examinez chaque ossement, surtout les ossements au niveau cervical et au niveau crânien, vous ne retrouvez aucune trace, par exemple, d'un égorgement qui vous aurait laissé sur l'osioïde
Oui. Francis Janot, ça veut dire que vous bénéficiez aussi aujourd'hui de tous les équipements modernes pour pouvoir identifier un corps, voir ce qui faire une radio par exemple, pouvoir voir des causes de la mort qu'on ne connaissait pas il y a 3000 ans.
Alors quand vous êtes sur le terrain, monsieur, vous avez votre tête et votre main, malheureusement, et vos connaissances et votre œil exercé, parce que faire venir un appareil de radiologie moderne dans une nécropole remplie de sable, vous imaginez bien que le scanner, il va résister, je lui donne un temps de survie entre 55 et 1 minute 20. Hein. Et quant aux autres instruments qui peuvent être très utiles, la microscopie électronique, les choses comme ça, quand on retrouve des indices microscopiques, il faut en faire des prélèvements, bien évidemment. Non, la seule chose, quand vous êtes sur le terrain, vous êtes tout seul. Tout seul avec vos connaissances. C'est pour ça qu'il faut sans arrêt essayer de s'améliorer. Hein.
C'est pour ça que... Bénédicte Loyer. Oui.
Par contre, effectivement, pour rebondir justement sur ce que dit Francis Janot, c'est dans les musées la plupart du temps qu'on peut avoir après des appareils ou même prendre rendez-vous à l'hôpital pour pouvoir faire des radios ou autres.
Et là, on découvre des choses.
Et là, on découvre des choses. Alors, je suis sûre que Francis Janot en a entendu parler, mais il y a encore récemment, on avait vu qu'il y avait manifestement la momie de Ramsès III avait eu le cou tranché. Avec
une plaie. Savait pas, c'est ça.
En fait, c'était dissimulé par une sorte d'écharpe, en lin. Les embaumeurs avaient vraiment fait un grand soin pour cacher manifestement une plaie béante, puisqu'elle était, je crois, profonde d'au moins 6 cm. Et à l'intérieur de cette plaie, les embaumeurs avaient disposé une petite amulette d'un œil Oudjat. C'est en fait l'œil d'Horus, oui. Et Oudjat venir en égyptien ancien intact, intègre. Oui. Donc, magiquement, en plaçant cette petite amulette, on refermait la plaie et en quelque sorte, on pouvait guérir de façon post-mortem le roi. Et ça nous fait rebondir sans doute sur une affaire qui est extrêmement célèbre en égyptologie et qu'on appelle le complot du harem. Mmh. Et dans ce complot
toujours,
du harem, il y a un autre corps aussi qui est devenu absolument emblématique, qui est celui de l'inconnu E de la cachette de Deir el-Bahari, qui est alors c'est assez exceptionnel. Lorsque cette cachette a été découverte, les corps ont été emmenés à ce qui allait devenir après le futur musée du Caire, et les momies ont été démaillotées. Alors bien sûr, ça c'est extrêmement violent, on a perdu beaucoup d'informations, mais c'était l'époque. Et ça a permis de révéler le visage de rois absolument extraordinaires. Et au milieu de tous ces rois qu'on débande l'été, il y a eu ce corps. Et un corps qui est arrivé sur la table, il n'y avait pas de nom sur le sarcophage. Et lorsque les premières couches de lin ont été retirées, une odeur épouvantable a envahi la pièce. Et on s'est aperçu avec stupeur que cette personne-là n'avait pas eu un embaumement à l'égyptienne, oui. Mais était dans une peau de chèvre. Ce qui est déjà terrible pour un Égyptien. On a ça dans les textes, c'est une manière entre guillemets assez impure. C'est pour les gens du désert.
Sûr.
Et ce personnage qui a été révélé n'avait absolument pas été embaumé. Il est dans une position très étirée. Il a les mains entravées, les pieds entravés. Et il a cette bouche ouverte tordue. On le surnomme d'ailleurs la momie hurlante. Et en fait, manifestement, tout le cou a été compressé. Alors,
donc,
il est peut-être mort pendu ou est-ce qu'il a été étranglé? Et on suppose que ce fameux inconnu E est en fait un fils de Ramsès III qui a essayé de prendre la place de son père. C'était ce fameux complot du harem.
Oui.
Et donc, il a été d'ailleurs manifestement exécuté. Nous avons l'acte d'accusation à mort de ce jeune homme qui s'appelait Pentaour.
C'est ça. Mais Francis Janot, vous êtes spécialisé, vous, l'embaumement dans l'Égypte ancienne, et vous avez fait des autopsies dans des musées, je crois dans le musée de Turin, vous avez ouvert un sarcophage et vous avez autopsié un corps.
J'ai eu la chance de participer à l'étude de la momie de Mérite, donc l'épouse du grand architecte K, dont la tombe incomplète a été retrouvée à Deir el-Médineh par Schiaparelli, et qui est donc l'intégralité de la tombe, cette tombe 8, a été donnée et rapportée au musée de Turin. Et un jour, je travaillais au musée de Turin, et en fait, cette momie a été sortie, elle est sortie à peu près tous les 10 ans pour voir son état, et on a pu ainsi retrouver une chevalière en or, qui était complètement passée inaperçue, que personne depuis 1920 n'avait jamais découverte. Et c'est ainsi que j'ai eu accès, finalement, aux radiographies de cette dame Mérite. Et ainsi, on peut découvrir qu'il y a tous ces bijoux qui sont en place, parce que justement, Schiaparelli, lui, n'a pas procédé au démaillotage de ces momies, comme Bénédicte l'a très bien rappelé. Lui, il a épargné ces deux corps, ce qui fait qu'on retrouve en place leurs bijoux, et seule la radiologie peut le démontrer, bien évidemment.
«
France Culture.
Esprit de justice.
Antoine Garapon.
Esprit de justice, toujours avec nos deux archéologues pour parler de la justice dans l'Égypte ancienne et ce que nous apprend la criminalistique. Et on est presque gêné d'interrompre Luciano Pavarotti parce que vous avez choisi, Bénédicte Loyer, de nous faire entendre cette air d'Aïda.
Voilà, j'ai été plus traditionnelle que Francis Jeannot. En fait, ça c'est un petit clin d'œil pour une amie très chère qui s'appelle Vera Zembar, qui adore l'opéra. Et Aïda, forcément, pour nous, égyptologues, avec un livret écrit par Auguste Mariette pour la première en 1871, et surtout aussi pour la fin,
cette scène terrible
avec Radamès et Aïda condamnés à mort et à être enfermés vivants. Je trouvais que voilà, ça collait bien un peu à la thématique, sachant que pour le moment, Francis pourra éventuellement ajouter quelque chose, mais je ne pense pas qu'on ait de cas de gens enterrés vivants comme dans les films hollywoodiens, où forcément un grand prêtre se retrouve enfermé dans une mort atroce avant de revenir 3000 ans plus tard avec les 10 plaies d'Égypte dans sa besace.
Alors Francis Jeannot, vous confirmez qu'il n'y avait pas d'emmurés vivants dans vos découvertes archéologiques?
Non, il n'y a pas d'emmurés vivants, c'est bien dommage. Mais en revanche, on peut retrouver...
Oui, ça dépend pour qui.
On peut retrouver dans les pilleurs, quand ils descendent dans les tombes et qu'ils passent d'un tombeau à l'autre, on peut très bien retrouver un pillard qui a reçu un plafond d'une tombe qui était un peu instable. J'ai le souvenir très net à Saqqara, d'un endroit extrêmement dangereux où j'avais rampé jusque-là. Et il y avait un fontis de puits qui s'était effondré, et j'étais certain qu'à cet endroit-là, il y avait un pillard qui était en place. Malheureusement, on ne m'a jamais autorisé à procéder à la mise en évidence du corps. Mais ce sera toujours un regret, ça. C'était la...
Vous vous souvenez quand même de l'endroit, Francis?
Je me souviens de l'endroit, mais je n'irai plus parce que depuis le pillage de 2011, tous ces endroits sont complètement dévastés, dirons-nous.
Bon, je vais essayer de reprendre le dossier quand même, parce que alors, ça m'intéresse énormément.
Je voudrais, Francis Jeannot, il y a aussi autre chose que vous avez fait, que je trouve très intéressant, parce que c'est vous avez fait de la reconstitution faciale des momies.
La reconstitution faciale, oui. Alors, on l'a fait à partir de... en fait, c'était un crâne... cette reconstitution faciale, c'était un crâne qui avait été rapporté en France pour étude, qui venait de la tombe de T40 de Sedenga. C'était une femme, et il y a une de mes étudiantes, qui est allée à Lyon, au laboratoire de paléoanthropologie, et qui a procédé à toutes ces techniques de Gerasimov. Ce sont ces techniques de plastination sur lesquelles on rajoute à partir d'un crâne fait à l'identique, on rajoute donc l'épaisseur de peau, l'épaisseur des muscles, on rajoute les cheveux, et ça donne l'image la plus proche, la caricature la plus proche de cette femme. Et en parallèle, Jean-Noël Vignal, le spécialiste qui était venu refaire la reconstitution en tridimensionnel du crâne de Toutankhamon, avait également s'était exercé aussi à faire la reconstitution, mais lui simplement par les données anthropométriques et par ordinateur. Les résultats n'étaient... Alors je n'avais pas dit aux deux intervenants qu'ils avaient eu le même travail à réaliser, et il y avait eu, lorsque les travaux étaient dévoilés lors de la soutenance de la thèse, on avait eu quelques différences qui étaient vraiment intéressantes. Mais on avait, vous voulez, la caricature, à portée robot, si vous voulez. Hein, de nos jours, ce serait un portrait robot, comme vous avez eu le portrait robot il n'y a pas longtemps de la personne qui passe son temps à mutiler les chevaux.
Voilà. Alors, Bénédicte Loyer, cette justice égyptienne, on voit à quel point elle est pourvoyeuse d'imaginaire. Des pourvoyeuses d'imaginaire et pas uniquement à part la balance. Également, il y a des films il y a la momie et puis cet imaginaire de la justice, cette justice terrible, les morts qui se réveillent. Il y a aussi l'histoire de Cambyse, alors qui a été extrêmement importante, l'histoire de Cambyse au Moyen-Âge.
Alors oui, alors Cambyse fait partie de ces figures qui sont après devenues absolument emblématiques. Et Cambyse,
vous pouvez nous présenter Cambyse pour nos auditeurs.
Cambyse, c'est un roi assez Syrien qui est parti conquérir l'Égypte. On est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et il va réussir, avec son armée, à prendre l'Égypte au complet. Il me semble que c'est même... il est allé très loin, notamment dans le sud. Thèbes a été prise et d'ailleurs, elle a entièrement brûlé. D'ailleurs, quand on fouille à Karnak, c'est quelque chose qui est formidable. Quand on a une petite ligne noire qui apparaît sur notre stratigraphie, on sait que ça, c'est le moment où Karnak a brûlé. Et Cambyse, forcément, a une très très mauvaise réputation pour nous. Nous, parce sûr. Que les sources grecques, qui Bien ne portaient sûr. Absolument pas les Assyriens dans leur cœur, en tout cas, ont tracé de lui un portrait absolument terrible.
Il a eu un rôle d'ailleurs très important au Moyen-Âge occidental, chez nous en France, où la justice de Cambyse, c'était vraiment l'épouvantail, c'était l'horreur.
Et l'horreur absolue, et puis surtout quelqu'un qui outrepasse sa qualité de roi, ou en tout cas d'empereur, qui est censé maintenir un certain ordre, mais qui s'abaisse à faire des choses absolument épouvantables. Et en Égypte, notamment, on le connaît sous un épisode terrible, puisqu'il a mis à mort le taureau Apis, qui est une sorte de taureau sacré. C'est une parcelle de divinité du dieu Ptah, qui est le grand dieu de Memphis et le patron des artisans. Et Cambyse a en fait décidé de mettre à mort ce symbole qui était d'une importance cruciale.
Et ça, c'est un sacrilège.
Et ça, c'est un sacrilège ultime. C'est absolu. Hein, et effectivement, c'est... Alors pareil, il a fait battre les prêtres de verre.
Francis Jeannot, on a beaucoup parlé de votre travail, et avec Bénédicte Toulaillier, de votre travail d'archéologue, mais vous êtes aussi expert judiciaire devant la Cour d'appel de Nancy. Vous l'avez été, mais ce que je trouve intéressant, c'est ce lien que vous faites entre la criminalistique, les indices et les traces. C'est-à-dire un peu comme si l'archéologue avait des choses à dire aux policiers, même dans l'archéologue avait une science du détail, une science de la reconstitution qui était intéressante pour la police judiciaire.
Ah oui, complètement. La scène de crime, si vous regardez ce que dit l'Office des Nations Unies, alors je lis la définition, parce que je l'ai sous les yeux là, définition d'une scène de crime. C'est tout lieu contenant des traces d'activités passées. Vous voyez que là, j'ai l'impression de rentrer dans une tombe de l'Égypte ancienne. Hein. Il y a un parallèle, les deux disciplines, la criminalistique et l'archéologie, sont forcément intriquées. Et d'ailleurs, ce qui aurait été vraiment extrêmement intéressant, c'est lorsque nous avons découvert cette tombe inviolée à Saqqara, ça aurait été de faire rentrer une équipe soit de la police technique et scientifique, soit une équipe de techniciens d'identification criminelle dans la gendarmerie nationale, afin de voir qu'ils puissent utiliser toutes leurs techniques pour mettre en évidence des indices que notre œil ne peut mettre en évidence.
Mais je me trompe ou dans certains pays, comme dans l'Angleterre, sur les scènes de crime et sur les scènes notamment d'attentats, on fait intervenir des archéologues pour travailler en premier la scène de crime.
Vous avez parfaitement raison. Le forensic archéologiste est utilisé en premier sur une scène de crime dans le monde anglo-saxon. C'est lui, avant les techniciens de l'identification criminelle et le médecin légiste, qui est appelé pour mettre en évidence le corps dans l'ultime position dans laquelle il a été imposé par le ou les criminels avec les objets alentour. C'est cette mise en évidence, que part l'enquête policière. Si vous ratez ce moment extrêmement important, et vous ne pouvez pas vous tromper, vous n'avez droit qu'à un coup, c'est un shot. One shot, c'est tout. Si vous vous trompez, c'est raté, l'enquête démarre mal, voyez-vous.
Et Bénédicte Loyer, vous avez l'impression, vous, quand vous fouillez dans le Levant ou en Égypte, que vous faites un travail comparable à celui du policier, que vous devez reconstituer des indices?
Alors oui, tout à fait. Alors, juste une petite chose, je me suis rendu compte là que j'ai confondu en fait Cambyse avec Assurbanipal. Cambyse est un perse, bien sûr. Excusez-moi.
Les auditeurs ont rectifié.
Voilà, les auditeurs ont rectifié tout de suite, pardonnez-moi. Donc effectivement, oui, c'est bien un perse, bien entendu. Oui, effectivement, en fait, pour répondre à votre question, Antoine Garapon, en archéologie, et comme le souligne très bien Francis Jeannot, c'est en un seul coup, parce que quand on fouille, on détruit une couche et on ne peut pas la reconstituer par la suite. C'est pour ça qu'il faut être très méticuleux. Il faut vraiment prendre son temps. C'est une affaire de patience. Ce qui génère beaucoup de frustration lorsque vous voyez quelque chose sortir de terre et qu'il faut attendre, dégager tout autour de cet objet, prendre toutes les traces. On ne fait plus de trous, en fait. On ne fait plus à l'ancienne, à la chasse au bel objet et en jetant par-dessus notre épaule ce qui est considéré comme étant peu intéressant. Parfois, quelque chose qui a l'air comme ça, peu extraordinaire, peut révéler finalement des informations cruciales. Donc c'est pour ça que vraiment, c'est le cas quand j'emmène mes étudiants sur le chantier de fouilles à Hazor, on leur apprend aussi à vraiment regarder, aller doucement, aller progressivement, et ça nous permet justement de récolter une foule d'informations que l'on met parfois des années et des années à comprendre et avant de publier.
C'est ça. Et Francis Janot, vous avez, travaillé sur cette idée d'indice et de trace. C'est très intéressant, la trace, parce que à vous lire, vous reconstituez par exemple le geste de l'embaumeur, le geste des gens qui ont travaillé sur un corps, à partir des traces du pinceau, par exemple, et je parle sous votre contrôle, vous vous êtes intéressé à des choses qui étaient négligées par les archéologues d'autrefois.
Oui, bien évidemment, ça va. Ce que vous dites va tout à fait dans le sens de ce que a dit Bénédicte Loyer. Vous trouvez une céramique dans laquelle on a fait cuire, chauffer de la résine qui va servir pour l'embaumement. L'embaumeur, quand il a chauffé son produit qu'il va appliquer sur la momie, plonge une cuillère en bois, s'en met un peu sur les doigts, essuie le rebord du vase, essuie ses mains après lorsqu'il a terminé dans un chiffon en lin et le jette dans la jarre. Quand vous retrouvez cette jarre et ce chiffon, vous avez sur la résine qui s'est solidifiée, vous avez les empreintes digitales de l'embaumeur. Si vous avez la momie de l'embaumeur, vous faites un prélèvement de ces empreintes digitales et avec par la police scientifique, vous pouvez faire une comparaison.
Donc vous avez fait
ça je l'ai fait. Je l'ai fait au musée égyptien de Turin. Sur un lot de statuettes, ces ouchepti, donc ces statuettes funéraires qui servaient à faire le travail du défunt dans l'au-delà, une certaine statuette qui venait donc, qui avait été découverte dans le chantier de Deir el-Médineh, possédait derrière, au moment où elles ont été fabriquées dans le moule, vous aviez l'artisan qui a appliqué ses empreintes digitales.
En ayant
relevé ces empreintes, les différentes empreintes digitales, les ayant confiées à un spécialiste de la police scientifique de Turin, il a été capable de déterminer un lot de statuettes qui avaient été faites, fabriquées par le même artisan. Mieux, on est capable d'en déduire le geste technique, parce que chacun a un geste propre. La manière dont vous saisissez votre verre, de la manière dont Bénédicte Loyer prend son verre pour boire à sa bouche et moi en faisant de la même chose, nous ne prenons pas notre verre de la même manière.
Donc vous seriez capable de faire des enquêtes pour des faits qui sont déroulés il y a 3000 ans, Francis Janot.
Mais comme des enquêtes qui se sont déroulées avant-hier.
Et on a les empreintes digitales de ceux qui ont pillé la tombe de Toutankhamon.
Oui, bien sûr.
En fait, parce que ils ont piqué de l'ongan, qui a une date d'ailleurs d'utilisation très courte, ce qui montre qu'ils ont attaqué la tombe, quelques heures à quelques jours après l'enterrement de Toutankhamon. Très vite. Et ils savaient où ils allaient. Ils ont attaqué les murs où ils savaient que derrière se trouvait une autre pièce. Donc, à tous les coups, ce sont soit les gens qui ont fait cette tombe, soit des gens qui ont participé à l'enterrement. Et dans plusieurs jarres, plusieurs jarres ont été ouvertes. Et le longan a été pris, ce qui suppose aussi qu'ils avaient sans doute prévu une sorte d'outre pour prendre cette espèce de crème qui doit ressembler un peu à de la crème Nivea. Et ils ont tellement bien raclé le pot que nous avons la trace de leurs doigts à l'intérieur, y compris sur le pourtour.
On a tous les éléments. Que fait la police?
Exactement, que fait la police? Mais il faudrait, si les Égyptiens avaient fait un département de police judiciaire, ça aurait été extraordinaire. On aurait sans doute tout ça.
Et ils auraient pris Francis Janot comme professeur titulaire de cette dernière question.
Il aurait été parfait.
Dernière question, Bénédicte Loyer, on a beaucoup parlé de la criminalistique et d'Égypte et de la justice. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui, l'Égypte ?
Tout. en fait, et encore plus, puisque finalement, quand on regarde l'Égypte, elle résonne beaucoup à l'heure actuelle, que ce soit par leur art, que ce soit par justement la justice, que ce soit par, par exemple, l'agriculture, par la technique même, hein, quand on regarde un peu leur technique de construction. Finalement, l'Égypte, elle a à nous donner encore énormément de choses.
Eh bien, merci beaucoup, Bénédicte Loyer. Merci beaucoup, Francis Janot.
Avec plaisir, avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Esprit de justice, Bénédicte Loyer, Francis Janot, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Jean-Benoît Tétu, Anne-Pascal Desvignes, Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h. Bonne soirée.